Bonjour, mes propos vont plus ou moins dans le sens de l'exposé de Marc Romainville, c'est-à-dire j'essaie de présenter une lecture critique des indicateurs produits par l'ADEP en France sur la réussite des étudiants à l'université. Je m'appuie ensuite sur une recherche conduite par moi-même sur la qualité de l'apprentissage à l'université en région parisienne, et je finis par trois discussions autour de cette comparaison entre plutôt la réussite aux examens et la prise en compte de la qualité de l'apprentissage. Voilà. Donc, la thématique de cette conférence, comme on a dit depuis le matin, est un débat récurrent depuis les années 70, pas uniquement en France, mais dans beaucoup de pays où l'enseignement supérieur a connu une massification assez importante. En même temps, donc, on constate que finalement, cet enseignement supérieur massifié connaît un nombre très important d'échecs au début du parcours des étudiants. Donc, c'est pour ça que ce phénomène est devenu un vrai problème de société. Mais en même temps, au-delà des pertes sociales et éducatives, dans un système massivement financé par l'État, les pouvoirs publics également s'interrogent sur le coût causé par ces échecs et ces orientations d'une manière légitime. Et de plus en plus, la réussite des étudiants est connectée à l'évaluation de systèmes supérieurs, en particulier, notamment en France. L'ADEP publie depuis plusieurs années d'une manière régulière des données statistiques sur le taux de réussite dans l'enseignement supérieur, au premier cycle et au deuxième cycle. La presse reprend largement ces indicateurs et produit des classements, des palmarès des universités qui exercent un certain impact dans l'opinion publique, et l'image également laisse une trace sur l'image de l'université. Si on compare le discours des années 70, 80, 90 avec le discours plus récent, on voit que finalement, un discours plutôt centré sur la lutte contre un phénomène considéré comme négatif, l'échec, a laissé la place à une autre discours, c'est-à-dire la promotion d'un objectif plus positif, c'est-à-dire la réussite. C'est pour ça que le terme de réussite est beaucoup plus utilisé dans les années 2000. C'est un changement important et significatif de discours public, davantage focalisé sur l'excellence et la performance. Et les projets qui sont en cours depuis, les plusieurs projets lancés depuis les années 2000, finalement, visent la promotion de la réussite. Si on regarde les dernières données publiées par l'ADEP, en réalité, on voit que sur 100 bacheliers inscrits à l'université en 2009-2010, entrant à l'université en 2009-2010, deux ans plus tard, 54 restent encore inscrits, 31 en L3, 23 en L1 ou L2, 4 en réorientation à l'intérieur de l'université et 42 sorties. 27% de ces étudiants obtiennent leur licence en 3 ans, 13% en 4 ans et 4% en 5 ans, TTC 44% pour 5 années d'études. Donc ce qui montre qu'en réalité, ces données montrent que l'accès à l'enseignement supérieur dans le temps de la massification, finalement, n'est pas la même chose que l'accès au savoir, tout à fait. Donc, c'est la démocratisation qui est un peu problématique aujourd'hui, et tout le monde s'interroge sur les raisons de ce phénomène, à qui la faute, en réalité. Et les critiques ciblent de plus en plus l'université, qui n'a pas pu prendre peut-être la mesure des changements. C'est pour ça qu'on parle de la valorisation de la pédagogie, depuis plusieurs années. Le modèle que l'ADEP nous présente pour produire ces indicateurs qui sont à l'origine de beaucoup de discussions, finalement, c'est un modèle input-output basé sur un système démographique d'entrée-sortie. En réalité, quand à l'entrée, on introduit un groupe, une cohorte, avec des données personnelles, l'âge, série du bac, CSP des parents ou d'autres choses, et à la sortie, on regarde les résultats réalisés en termes d'output, et on essaye de développer un schéma explicatif à partir des relations supposées entre les variables d'entrée et les résultats, en réalité. Pour dire, vous voyez systématiquement dans le discours de l'ADEP, par exemple, si vous avez un bac technologique ou si vous avez un bac professionnel, vous avez 5 fois, 10 fois, 15 fois moins de chances qu'un quelqu'un qui a un bac S, par exemple, pour réussir à l'université. Dans ce modèle, finalement, les plus performants sont ceux qui arrivent au plus vite au terme de leur parcours. La référence est un parcours type, c'est-à-dire 3 années pour la licence, 2 années pour le master. Et ces modélisations et statistiques, finalement, en arrière-plan, introduisent une conception rationnelle et économique des parcours universitaires. Ce modèle est critiqué par certains chercheurs qui considèrent que, finalement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte dans la construction de ces indicateurs. Entre autres, on prend les étudiants en octobre, en entrant à l'université, tandis que une partie de ces étudiants ne vient jamais à l'université, ils s'inscrivent, mais je viens jamais à l'université, mais ils sont comptés dans les indicateurs. Et on peut très bien voir que dans les enquêtes produites par les recherches de terrain, on voit les données qui sont plus fines, plus nuancées par rapport à cette question. Et ces modèles et statistiques sont très, très peu utilisés à l'étranger, en réalité, dans les autres pays. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, quelque part, quel est le pourcentage de réussite des étudiants en première année à Harvard, à Stanford, à UCLA? Jamais ou très rarement, parce qu'on ne calcule pas, on ne voit pas de la même manière la question. Le débat donc, académique également est vif autour de la signification de la réussite. Marc a très bien, brillamment présenté la problématique de la réussite et toutes les... Le caractère polysémique, surtout quand on parle de la réussite aux examens et pas aux réussites, pas à la réussite au sens large. Deux familles de recherches, finalement, se distinguent aujourd'hui dans les recherches sur la performance, grosso modo. Les recherches qui s'intéressent essentiellement à la réussite aux examens, à la réussite académique, et les recherches qui s'intéressent beaucoup plus à la qualité de l'apprentissage. C'est une distinction que je fais uniquement pour notre débat. Parfois, ces deux familles cohabitent ou les deux séries d'indicateurs sont ensemble. Si je récapitule un peu les recherches sur la réussite à l'université, je peux vous dire plus ou moins, avec un peu d'imprudence, qu'il y a 3 grandes catégories de variables qui sont considérées comme les variables prédicteurs de réussite. Les variables qui sont les variables de parcours et les variables liées aux conditions de vie. L'Observatoire de la vie étudiante, par exemple, en France, produit énormément de données sur ces variables. Les variables qui sont liées à l'étudiant et à la manière d'être étudiant, finalement, la manière dont l'étudiant, finalement, se mobilise, s'engage et travaille à l'université, son projet et ses motivations. Et enfin, une troisième catégorie en bas, les variables qui sont les variables contextuelles, récemment, depuis 20 ans, mobilisées dans les recherches pour voir l'effet de l'établissement, l'effet de la, par exemple, de la pédagogie sur le devenir des élèves. Parce qu'on considère plus ou moins qu'apprendre, c'est une rencontre entre une situation et en apprenant. Et c'est pour ça que c'est dans cette perspective que, finalement, les variables contextuelles, également, sont extrêmement importantes. Les collègues belges sont très en avance depuis les années 90. Ils ont travaillé sur ces variables contextuelles liées à l'établissement et son impact sur les étudiants. On voit donc une diversité notable des approches et des thématiques mobilisés. Donc, il y a un caractère vraiment multifactoriel de la réussite universitaire et on ne peut pas isoler d'une manière ou d'une autre telle ou telle variable pour dire cette variable pèse lourdement ou une autre pèse moins lourdement, parce qu'on est face aux situations assez complexes qui ne sont pas réductibles à telle ou telle dimension objective ou subjective. Maintenant, si je regarde les recherches, les deux familles, la famille qui travaille essentiellement sur la réussite, les indicateurs liés à la réussite, et la famille qui s'intéresse davantage à la qualité de l'apprentissage, ces familles sont face aux trois entrées, finalement. Une entrée qui est plutôt liée à ce qu'on apprend, qu'est-ce que j'apprends à l'université, une entrée qui concerne comment j'apprends à l'université, et une entrée qui est en rapport avec les résultats obtenus. Pourquoi c'est distinguer ces trois entrées? Parce que la question de la qualité, c'est comment, la question qui est au milieu, finalement, est une question qui est toujours posée quand on apprend quelque part, à l'école, au lycée, au collège ou à l'université. Mais finalement, à l'université, les enjeux de l'apprentissage changent radicalement. C'est-à-dire, au regard des finalités de l'université, le passage à l'université est un moment critique dans un parcours biographique, parce que les étudiants doivent faire des choix très importants pour leur avenir, explorer une vision de vie, développer de nouvelles formes d'autonomie sociale, intellectuelle et affective, et développer une expertise dans un domaine, c'est-à-dire pouvoir mobiliser d'une manière pertinente un savoir acquis à l'université. Donc c'est une vraie quête de sens dans un moment transitoire de la vie d'un jeune. Et dans le contexte français, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une régulation minimaliste, pour l'université surtout, et très peu de contraintes formatrices à l'entrée pour pouvoir mieux accompagner finalement les étudiants. Si on regarde maintenant apprendre à l'université, pour dire que quand on est dans une approche scolaire, on est plutôt beaucoup plus dans une logique de la mémorisation, de la restitution dont a parlé tout à l'heure également Macron-Manville. Progressivement, on doit passer à la compréhension, à pouvoir donner un sens, effectuer des liens et des connexions entre les savoirs et les pratiques, mobiliser d'une manière pertinente un savoir et enfin pouvoir chercher, critiquer, innover et créer. C'est comme ça que finalement, apprendre dans l'enseignement supérieur, c'est traverser les transitions, les passages entre les niveaux et pouvoir atteindre un niveau plus sophistiqué, comme disait Jean-Marie Doquetel, le niveau de développement de la pensée abstraite. C'est-à-dire que c'est ce niveau qui est en jeu dans le travail universitaire. Et les recherches sur la qualité de l'apprentissage, depuis pratiquement plus de 50 ans, ont commencé par Perry à l'Université de Harvard, qui a travaillé sur les croyances épistémiques et la conception du savoir chez les étudiants comme un paramètre très important dans l'acte d'apprendre, dans la mobilisation intellectuelle de l'étudiant dans un apprentissage. Ensuite, on a eu les recherches scandinaves, nordiques, et également ensuite suivies par les Britanniques et les Australiens sur la conception de l'apprentissage et l'approche de l'apprentissage, le style d'apprentissage, les formes de compréhension. Toutes ces recherches ne parlent pas des résultats aux examens, c'est plutôt comment les étudiants, finalement, apprennent à l'université. Ces recherches ont été faites ou sont faites en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation. Donc, les entrées disciplinaires, parfois, sont à l'origine de l'existence, de la diversité des conceptions. Plus ou moins, ces recherches nous orientent vers deux types d'apprentissage. Une opposition assez nette entre un apprentissage essentiellement fondé sur la reproduction du matériel de l'apprentissage, avec un niveau moins sophistiqué de traitement des données, et une attitude passive. Marc, tout à l'heure, a souligné, donc approche en surface. Et un apprentissage davantage focalisé sur la recherche de sens et la compréhension personnelle. La recherche la plus diffusée au niveau international, c'est la recherche des équipes suédoises, australiennes et britanniques dans l'OTAN, centrée dans un premier temps sur la conception de l'apprentissage, mais ensuite surtout avec cette typologie, l'approche d'apprentissage avec trois types d'approches à l'université développées par les étudiants. L'approche de surface avec l'absence de sens, la mémorisation, la reproduction et le fait que l'étudiant tente d'isoler les cours et les matières. L'approche en profondeur, c'est plutôt la compréhension, relier des idées, développer les liens entre apprentissage nouveau et antérieur, le développement de l'esprit critique et accorder une importance au contenu. Et ensuite, entre les deux, l'approche stratégique, c'est-à-dire être un très bon étudiant, attentif aux exigences et aux critères de l'évaluation, c'est-à-dire obtenir de très bonnes notes, travailler efficacement, optimiser ses efforts, apprendre pour réussir et avec surtout, entre autres, les motivations qui sont également extrinsèques par rapport à l'acte d'apprendre, c'est-à-dire les notes, les réussites, les examens. Il y a d'autres également typologies, je veux pas, j'ai pas le temps de les développer, qui montrent à peu près la même chose, c'est-à-dire les étudiants entre un premier niveau d'apprentissage et à un niveau plus développé, avec une autonomie plus importante, une autonomie réflexive et le développement de ses propres structure de pensée. Maintenant, je reviens sur une recherche que j'ai conduite moi-même en région parisienne pendant 3 ans dans 5 universités avec 2 dispositifs. J'ai fait des entretiens semi-directifs auprès d'un groupe d'étudiants et j'ai suivi pendant 3 ans un groupe d'étudiants pour voir comment les étudiants évoluent à travers leur rapport au savoir à l'université, comment ils apprennent. Quelles sont les motivations les plus importantes? Est-ce que ces motivations évoluent? Quel est l'impact de l'environnement du étude sur les étudiants? Quels changements dans leur pratique d'études? Pourquoi faire avec les autres étudiants? Quelle relation avec les autres étudiants? Mais également, quel type de relation avec les enseignants? Quels sont les cours ratés? Quels sont les cours les plus réussis? Les cours les plus appréciés? Pour quelles raisons? Donc, j'essayais donc de discuter, d'échanger avec les étudiants sur ces thèmes. Et ça m'a permis de développer une notion qui s'appelle la perspective, que j'ai appelée la perspective d'apprentissage, comme une notion plutôt sociologique pour décrire la relation à l'apprendre. Pour moi, la perspective, c'était l'ensemble articulé d'idées et de schèmes qu'un étudiant mobilise pour appréhender l'acte d'apprendre dans un contexte donné. Donc, pour moi, la perspective était la manière dont l'expérience universitaire était comprise, interprétée par un sujet apprenant qui est doté d'une subjectivité, d'une réflexivité. La différence entre la perspective d'apprentissage et l'approche de l'apprentissage, c'est surtout renvoie au fait que la perspective prend en considération également la situation. C'est-à-dire, je ne considère pas apprendre comme un acte isolé, comme un acte. Je le considère comme un acte situé dans un contexte donné, disciplinaire, un établissement. Donc, établissement, pour moi, c'est un espace-temps de formation, et l'étudiant, c'est un apprenant à la recherche de sens. J'ai identifié 4 perspectives dans la région parisienne, chez les étudiants que j'ai rencontrés dans 5 universités de la région parisienne. La première perspective, pour moi, était la perspective compréhensible. Donc, cette perspective, elle répond plus ou moins aux traits attendus des exigences académiques. C'est-à-dire, l'étudiant privilégie la compréhension et le sens, s'approprie le savoir d'une manière personnalisée et arrive à connecter les différents types d'acquis en cours ou les acquis antérieurs. Mais également, les apprentissages participent à la transformation de soi et son rapport au monde. Et souvent, chez ces étudiants, le plaisir est de l'apprentissage et le ressort de leur expérience universitaire. Pour eux, souvent, le savoir prend une valeur pour soi. La deuxième perspective chez les étudiants était c'est la perspective dominante chez les étudiants rencontrés, c'est la perspective de performance. Ici, nous sommes face aux étudiants qui sont très mobilisés, très actifs, très engagés, mais pour surtout obtenir leur diplôme au plus tôt possible et pour accéder à un métier. Donc, la partie perspective professionnelle pour eux est extrêmement importante. Donc, ils tiennent aux bonnes habitudes de travail avec un rythme régulier et ils travaillent d'une manière permanente pour pouvoir répondre aux exigences pédagogiques. Troisième perspective, c'est une perspective minimaliste dans laquelle les étudiants finalement se contentent consciemment à un minimum indispensable pour valider ses cours et en s'acquittant des tâches. C'est-à-dire, on ne voit pas un enthousiasme chez cet étudiant on voit très souvent un apprentissage assez superficiel et fragmenté. Maintenant, la dernière perspective, je vais très vite, la désimplication. C'est-à-dire les étudiants qui étaient, quand je les ai vus, ils étaient en train d'être marginalisés, en train d'abandonner leurs études, donc déçus de contexte, mais également souvent sans projet ou déçus de leur projet initial. Ils sont à la marge de l'université et pas très actifs. Maintenant, j'essayais de voir les résultats de ces étudiants d'une autre manière, c'est-à-dire de voir, par exemple, les étudiants qui ont tout validé, les étudiants qui ont validé partiellement leurs cours, les étudiants qui ont validé moins de 50% de leurs cours avec échec partiel, et les étudiants qui n'ont pas du tout validé quelque chose ou ont validé un ou deux cours par-ci, par-là. Donc, on voit très bien qu'il n'y a pas la réussite et l'échec, il y a donc une nuance assez nette entre les étudiants. Mais quand on voit la durée moyenne nécessaire pour le groupe pour pouvoir valider un an théorique, finalement, en première année, c'est 1,7 ans. Après, tout de suite, il y a une amélioration, 1,45, 1,35 pour arriver à 1,3 au niveau de la première année en master. Maintenant, j'arrive à un point critique dans mon exposé, c'est-à-dire, quand je regarde maintenant le parcours en prenant en compte la réussite des examens et les formes de la qualité de l'apprentissage, compréhensible, performante, minimaliste et des applications, finalement, on voit très bien que les étudiants les plus réussis, sans retard, peuvent être compréhensives dans la perspective de performance, mais également minimalistes. C'est-à-dire, les trois réussissent. Donc, pour les données statistiques, les trois sont comptés parmi les étudiants réussis, mais en revanche, le type d'apprentissage ou la qualité de l'apprentissage est très différente. C'est pour ça que je dis, à l'université, on peut avoir une réussite épistémique lorsque le sens est au rendez-vous. On peut avoir une réussite stratégique quand on est dans une perspective de performance, et on peut avoir une réussite minimaliste lorsque on cherche à obtenir des notes qui permettent de valider l'année. On peut peut-être parler, comme disait Lahir dans un travail sur les données de l'Observatoire de la vie étudiante nationale, une diversité du style de réussite parmi les étudiants, et cette hétérogénéité de modèles de réussite, finalement, est compréhensible dans la mesure où les projets, la relation à l'apprendre et les conditions étudiantes varient considérablement selon les parcours singuliers. En réalité, la réussite des examens ne reflète pas, comme Marc a bien montré également, ne reflète pas les impondérables nuances des manières d'apprendre et de la relation que les étudiants entretiennent avec le savoir et les savoir-faire universitaires. J'ai trois points par rapport à mon enquête qui étaient importants pour notre débat. Le premier point est que la perspective d'apprentissage ne préexiste pas systématiquement l'expérience universitaire. C'est-à-dire que l'étudiant n'arrive pas à l'université avec une perspective rigide, arrêtée. Donc il y a une évolution, et j'ai vu ce que j'ai appelé les convertis, les étudiants qui ont changé leur perspective grâce à une prise de conscience, grâce à l'environnement d'études. Et ça, c'était le point clé dans l'enquête. Deuxièmement, il y avait le rôle de la pédagogie dans la mobilisation et l'engagement intellectuel. Le point clé, c'est la conscience chez l'étudiant, pourquoi j'apprends, et l'engagement intellectuel. Et rares, je vais vous montrer un tableau, mais vous allez voir que rares sont les étudiants qui étaient dans un engagement intellectuel très avancé, tout en étant déçus de leur environnement d'études. Et ensuite, le rapport à l'environnement d'études, en réalité, c'est une perception. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la réalité, mais c'est cette perception qui devient à l'origine de l'activité de l'étudiant. Alors, si vous regardez donc, le dernier tableau que je vous montre, finalement, les quatre perspectives rencontrent trois types d'environnement selon eux-mêmes. Quand ils ont une perspective enthousiaste, c'est-à-dire la perspective, l'étudiant est content, l'étudiant est enthousiaste par rapport à son environnement. Quand la perception est mitigée, l'étudiant dit oui, il y avait de très bonnes choses, mais également il y avait telle ou telle chose qui n'allait pas très bien. Donc il y a également un peu de critique. Et ensuite, la perspective négative, quand l'étudiant est déçu de son environnement. Et vous voyez que finalement, les étudiants qui sont dans une perspective de performance sont moins influencés par l'environnement d'études que les étudiants minimalistes et les étudiants qui sont en perspective de désimplication. Et les étudiants qui sont dans une perspective compréhensive sont systématiquement ou qui développent une perception enthousiaste ou une perception mitigée. Entre autres, il y a un lien assez fort entre la manière dont l'environnement d'études est perçu et la manière dont l'étudiant développe une perspective d'apprentissage. Je ne veux pas ici créer un lien causal linéaire, mais je dis que ce lien sur le plan dans cette recherche, il est très évident. Ensuite, je vous ai dit que je propose trois discussions. La première discussion liée aux indicateurs de réussite publiés par l'ADEP et par les autres organismes publics. Je pense que mesurer rigoureusement le taux de réussite sur la base des critères préconstruits pose un vrai problème, comme on a essayé de montrer à travers la recherche, méthodologique et théorique. Je pense que la critique vise aussi la durée, la manière dont la durée est considérée comme un critère essentiel pour apprécier un parcours. Dans le modèle input-output, finalement, la vie étudiante et la vie sociale à l'intérieur de l'université est une boîte noire parce que les variables sont préconstruites en rapport avec les données à l'entrée. Et finalement, les mécanismes à l'origine de tel ou tel résultat à l'intérieur de cette boîte mystérieuse restent assez inconnus dans ce modèle. Et en réalité, le sens des termes échec et réussite pour les intéressés, c'est-à-dire les étudiants, demeure assez dépersonnalisé. Et c'est pour ça que je proposerais de réfléchir sur les indicateurs qui sont peut-être des indicateurs alternatifs qui sont plus proches de la réalité des étudiants. Moi, je pense qu'il faut davantage se focaliser sur les indicateurs qui sont plus pertinents dans une construction fine et connectée à la réalité des étudiants. Par exemple, la prise en compte de temps étudiant, le taux de décrochage plutôt sur les étudiants qui ont effectivement commencé leurs études, qui ont abandonné leurs études, plutôt que prendre d'une manière globale les étudiants à l'entrée. La deuxième discussion, c'est la temporalité étudiante. C'est la discussion la plus importante que peut-être je veux proposer. Je pense qu'il faut commencer par cette hypothèse que l'expérience universitaire n'est pas uniquement déterminée par ce que l'université impose, mais aussi par les projets personnels, les motivations, les temporalités et les conditions singulières des étudiants. Je pense que l'apprentissage du métier d'étudiant ne se fait ni de la même manière, ni avec le même rythme par les étudiants. La temporalité des étudiants est une donnée singulière. Avoir besoin d'un peu plus de temps pour trouver sa voie, avoir le droit de se tromper, erreur féconde, ce que j'appelle une erreur féconde dans mon travail, sont des besoins humains et légitimes. Donc, je ne veux pas ici faire l'apologie de l'échec, vous en doutez, en tant qu'enseignant, je ne ferai pas ça, mais vraiment réfléchir sur le temps étudiant. Et voir que finalement le temps institutionnel ne s'accorde pas toujours au temps d'une vie humaine. C'est-à-dire le parcours humain n'a pas assimilable à la valeur d'une marchandise. Parce que quand on prend les étudiants comme ça, l'étudiant devient une marchandise ou un service qui dépend de temps de travail incorporé. La conception de temps linéaire peut nous conduire à une sorte de maximalisation du rythme universitaire. Malheureusement, les étudiants entrent avec cette pensée. Nous pouvons renforcer cette culture. La vitesse risque de devenir une valeur absolue, le symbole de l'efficacité et de la réussite, sans prendre en considération, bien sûr, la qualité. Et la lenteur, on a une vision négative de lenteur, parce que la lenteur est toujours critiquée. Un temps perdu n'est pas systématiquement un temps gaspillé et une perte sèche. Ça, c'est un point très important. La vitesse est sans doute un paramètre important, mais il ne faut pas que la vitesse devienne une fin en soi. Le temps de vie, toujours, révèle parfois les vertus de retard et de temps perdu, comme j'ai pu observer chez les étudiants interviewés. Le retard, peut-être parfois, peut être vu comme le détour de la conscience par rapport au temps institutionnel, un détour nécessaire et le développement d'une nouvelle conscience à travers le temps de vie qui nous réserve des imprévus et des surprises très importantes. Ce débat nous amène à la définition de l'étudiant. En France, on connaît une seule définition de temps étudiant, c'est un étudiant à plein temps, en réalité. Les maquettes, les règlements, les dispositifs tendent uniquement à valoriser une seule figure de l'étudiant, tandis que les étudiants à temps partiel aujourd'hui l'étudiant à temps partiel est une réalité qui concerne un groupe croissant d'étudiants, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Il suffit de se référer aux données de l'Observatoire pour voir combien le temps étudiant il est variable d'un groupe à un autre. La troisième et la dernière discussion pour terminer, parler de la réussite sans parler de l'apprendre, à mon avis, c'est une erreur importante pour l'université. C'est-à-dire, nous devons pouvoir associer ces deux dans un univers, dans un monde où l'esprit est hanté par les examens et les notes. Moi, quand j'ai interviewé les étudiants, j'étais surpris par l'envahissement de la logique de savoir par la logique de l'examen, en réalité. C'est ça qui domine la pensée étudiante. C'est pour ça que, finalement, tout ce qu'on propose en termes de méthodes d'évaluation, les modalités de l'évaluation, pèsent lourdement sur la façon dont l'étudiant se mobilise. Les différentes réformes en France, réformes internes de l'université depuis 20 ans, tendent à assouplir les modalités de l'évaluation et uniquement pour pouvoir favoriser la réussite. Et souvent, au détriment de la qualité de l'apprentissage. C'est pour ça que je pense que nous devons plutôt penser à valoriser également la qualité de l'apprentissage à travers peut-être une pédagogie de l'affiliation. Il faut un autre regard sur l'évaluation, c'est-à-dire il ne faut pas que les notes soient... C'est-à-dire le regard qu'aujourd'hui on porte sur l'évaluation, c'est un regard assez réductrice à l'université et on sous-estime, Marc tout à l'heure a dit également, l'impact que l'évaluation exerce sur la manière dont les étudiants se mobilisent pour apprendre à l'université. Les objectifs de performance ne doivent pas devenir une fin en eux-mêmes plutôt qu'un moyen de parvenir à des finalités éducatives davantage focalisées sur les apprentissages de qualité et la formation d'un citoyen engagé. L'université, je pense que l'université doit préparer les étudiants, citoyens et futurs professionnels à confronter les défis d'un monde de plus en plus exigeant et en mutation permanente. Et cela nécessite vraiment un apprentissage de qualité et pas uniquement la réussite aux examens à l'université. Merci beaucoup.